9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, ravi de vous retrouver par cette belle matinée ensoleillée. Cette semaine, on a voulu absolument donner du sens à la gifle de Tain-l'Hermitage. C'était soit le peuple devient fou, soit Macron l'a bien cherché. On va revenir sur le sujet avec un neutre, le correspondant du quotidien suisse Le Temps, ce fin observateur de nos mœurs politiques qui est Richard Verli. Et puis l'on s'intéressera au plus beau coup de filet du FBI qui a eu lieu cette semaine. Pour une fois que c'est la police qui fait preuve d'imagination et pas les trafiquants, ça mérite d'être raconté. Frédéric Ploquin va s'en charger. Et l'on terminera l'émission avec l'historienne Annie Cohen-Solal pour son livre Un étranger nommé Picasso. Le plus célèbre peintre du monde a été pendant toute sa vie en France, fiché comme suspect. Richard Verli, bonjour. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. C'est avec vous que j'ai eu envie de revenir sur l'épisode de la gifle. Toute cette semaine, en fait, on a beaucoup interprété cette gifle, on lui a donné du sens. Alors, soit on a incriminé, je vous cite, des extrémistes chauffés à blanc par le complotisme dont le seul but serait de s'en prendre avec violence au symbole de l'État. Et il y a eu beaucoup de commentaires dans ce sens. Hein.
Oui, effectivement, le commentaire général, c'est de dire que la démocratie française est menacée, que la République est assiégée et que ce qui s'est passé, finalement, était prévisible vu l'état de colère du pays. Alors moi, j'ai essayé d'avoir une vue un petit peu plus distante. Je crois d'abord qu'il y a un facteur de pur hasard, mais surtout que, j'ai insisté là-dessus, que du côté d'Emmanuel Macron, il y a une cohérence et une forme de courage parce qu'il a continué à aller au contact de la population. Il le montre lorsque cet incident arrive. Il l'avait fait aussi lors du grand débat, vous vous souvenez, après les Gilets jaunes. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il assume son risque. Il sait que ça pouvait se passer comme ça. Et à mon avis, ça méritait d'être relevé.
Alors ça a été beaucoup, on a beaucoup aussi, beaucoup dans l'autre camp, on va dire, incriminé Emmanuel Macron lui-même qui aurait attisé la colère du peuple.
Dans le cas d'Emmanuel Macron, il se trouve que moi j'ai été nommé correspondant à Paris en 2014, donc j'ai suivi la campagne électorale et puis tout le quinquennat. Je pense en effet qu'il y a un problème de colère. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, de fait, par sa personnalité, par la manière dont il fonctionne, par son souci de disruption permanente, aussi par son éloge de la réussite avec le premier de cordée, etc., il attise la colère. Et c'est un problème. Un président de la République qui en permanence réveille un petit peu ce démon français qu'est la colère et la violence, c'est effectivement problématique. En revanche, je pense qu'on ne peut pas lui faire le reproche de l'attiser en allant voir le peuple, en allant rencontrer la population. Là, il est absolument dans son rôle. Et par ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, quand vous prétendez changer la France, faire des réformes, ce qui est son credo, eh bien naturellement, vous butez sur cet obstacle de la violence qui est rédhibitoire en France.
Mais vous insistez dans votre chronique, dans le quotidien Le Temps, sur le fait qu'on a un président qui n'a pas peur, on a un président qui s'expose. Et on l'a vu d'ailleurs, après cet incident de Tain-l'Hermitage, il était dans une autre ville, il a recommencé, il s'est baladé le plus naturellement du monde, comme il pense qu'un président de la République doit se comporter dans un pays libre comme le nôtre. Ça, c'est vrai que c'est très différent des présidents américains, par exemple, qui ne vont prendre de tels risques, qui sont entourés par le Secret Service, qui les en empêcherait d'ailleurs. Mais il faut dire aussi qu'ils ont eu des présidents assassinés assez récemment. Enfin, des présidents. Un président assassiné, Reagan, on s'en souvient, a quand même pris plusieurs balles quelques mois après son élection.
C'est juste. Alors, je pense que ça va, on l'a dit, avec la posture d'Emmanuel Macron, la posture politique, celle du changement, celle de la disruption. Ça va aussi avec le fait qu'il se croit très convaincant. Il est lui-même convaincu qu'il peut arriver, en explicitant sa politique, à faire changer d'avis ses adversaires ou les gens auxquels il parle. On l'a vu tout le temps, notamment pendant le grand débat, quitte à y passer des heures, vous vous souvenez.
Ce qui est un signe, enfin pour moi, un signe de respect pour ses adversaires, y compris c'est un signe de respect pour tout le monde. Et c'est toujours interprété à l'envers comme un signe de mépris.
Alors, je suis d'accord. La difficulté, concédez-le, c'est que quand il se lance dans des grands dialogues, les dialogues se transforment souvent en monologues. Donc c'est ça qui énerve. Mais néanmoins, il y a chez lui cette conviction qu'il a la capacité à faire changer d'avis ceux qui se trouvent en face de lui. Et enfin, dernière chose, je crois qu'il y a la l'âge aussi. Il y a une espèce d'audace de l'âge. Il a 43 ans, il se sent capable d'affronter la population, d'affronter ses électeurs. Peut-être qu'un président plus âgé prendrait davantage de précautions ou serait davantage sensible aux arguments de ses gardes du corps.
Mais est-ce qu'on n'a pas donné en France trop de signification, je ne dis pas dit d'importance, hein, mais trop de signification à un geste comme celui-ci, ce geste de donner une gifle comme ça, ou du moins de vouloir donner une gifle. Si Emmanuel Macron avait glissé, s'était tordu la cheville, est-ce qu'il faudrait parler de république paralysée ou de l'exécutif par terre ? Ce serait absurde. Or là, on donne une importance considérable à ce geste qui n'était ni prémédité, qui est un geste isolé.
Alors je suis d'accord avec vous. Je pense surtout qu'il y a eu une coïncidence ou plutôt une collision de différents événements. D'abord, il y a la campagne des régionales avec cette montée du Rassemblement national et la possibilité de voir ce parti l'emporter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les déclarations de Jean-Luc Mélenchon quelques jours plus tôt, puisque lui avait pronostiqué un incident pendant la campagne électorale. Donc tout ça a été mis ensemble. À mon avis, ça n'a pas de lien. Et surtout, il faut ramener ce geste à ce qu'il était, c'est-à-dire un geste non seulement isolé, mais pas non plus d'une portée physique démente. Emmanuel Macron ne s'est pas retrouvé à terre. D'ailleurs, quelques minutes après, il a repris le cours des choses, etc. Donc oui, il y a cette tendance systématique parce qu'on a l'impression en France qu'il y a non seulement, on le sait, ce fond de violence politique qui existe, mais la volonté de démontrer qu'on va vers le chaos. Et la thèse centrale d'un certain nombre de commentateurs, c'est de dire tout ça ne peut finir que dans le chaos. Moi, j'en suis pas du tout sûr. Je pense que tout ça peut finir autrement. Le niveau de violence, on le connaît, il est là. Il est d'ailleurs inscrit dans l'histoire française. Il fait aussi partie du spectacle politique français. Par exemple, vu de Suisse, il est évident que si on s'intéresse tant à la politique française, c'est aussi par rapport à son degré. Alors, vous pouvez parler soit de suspense, soit de violence, mais c'est un peu la même chose. Donc, oui, vous avez raison. Je crois que au fond, il y a un arrière-plan. Il y a une thèse générale, c'est que tout ça va finir en révolution. Voilà. Et on veut tout mettre dans cette thèse, même des incidents qui, franchement, pourraient et devrait être pris isolément.
Et ça, c'est depuis très très longtemps. Hein. On pourrait dire que c'est presque depuis le début de la 3e République, puis de la 4e République, puis de la 5e République. Il y a toujours eu ce que vous appelez dans votre papier cette tentation récurrente de la violence et l'idée que le pugilat n'est jamais loin. On va faire une pause, Richard Verly. On continue d'en parler juste après.
Europe 1, 9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
On revient sur la gifle de Tain-l'Hermitage avec Richard Verly, le correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. On parlait de cette tentation récurrente de la violence qui existerait en France sur le plan politique, hein, le fait que le pugilat n'est jamais loin, mais au fond, nous-mêmes, nous revenons de loin. Le passé était bien plus violent qu'aujourd'hui. Clémenceau traitait ses collègues à l'Assemblée nationale avec un mépris sans borne. Il les prenait tous pour des imbéciles. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, mais enfin, ça ne se dit plus. On ne s'insulte plus comme autrefois, on ne tire plus sur les présidents de la République comme on a pu le faire. Le général de Gaulle a essuyé plusieurs attentats. Alors vous allez me dire, c'était la guerre d'Algérie. On a eu deux présidents assassinés. Vous allez me dire, oui, mais c'était les anarchistes. N'empêche, on revient d'une violence bien plus grande que celle qu'on analyse aujourd'hui ou qu'on essaye de mesurer.
Oui, comment expliquer cela ? Alors, la première explication, c'est effectivement cet arrière-plan révolutionnaire permanent. Cette nécessaire référence, et c'était le cas des Gilets jaunes, avec la tête de Macron sur des pics, pour certaines fois, on essaye de se dire que finalement, en France, tout doit finir par une crise, nécessairement, et probablement une crise violente. Il y a un autre aspect, je pense, c'est que la violence aujourd'hui, elle n'est pas... finalement, elle est gratuite, elle est devenue gratuite d'une certaine manière. Dans la Troisième République, ce que vous disiez, quand on s'insultait, ça finissait en duel.
Oui, on se battait vraiment en duel.
On se battait vraiment, donc la violence avait un risque. Vous saviez que vous pouviez finir en duel au petit matin, près du château de Vincennes ou au bois de Boulogne, avec Clémenceau face à vous et un pistolet chacun. Aujourd'hui, c'est relativement gratuit, vous pouvez insulter tout le monde et vous n'en subissez pas les conséquences, encore que cette fois-ci, le jeune homme qui a giflé Macron a été condamné à 4 mois ferme. Et ça, c'est finalement le plus inquiétant, à mon avis. C'est quand la violence devient tellement gratuite, devient tellement installée dans le débat, et surtout une question de niveau. Qui insulte qui ? Quand Clémenceau insulte d'autres politiciens, c'est quand même d'un certain niveau et ça se joue dans une arène donnée qui est celle de l'Assemblée nationale. Là, maintenant, c'est des insultes de rue qui pleuvent sur tout le monde. Ça, c'est préoccupant. La baisse de niveau et la prolifération de la violence verbale gratuite. Et
d'ailleurs, Richard Verly, vous pointez dans votre chronique du temps, toujours consacrée à cet incident, hein, vous parlez de théâtre de l'absurde. On serait passé au fond du théâtre de boulevard au théâtre de l'absurde. Est-ce que vous pouvez expliquer ça pour nos auditeurs ?
Oui, alors je l'ai écrit dans le cadre de ma chronique hebdomadaire sur la France, pas seulement sur la politique française, et je l'ai écrit vu de Suisse. C'est vrai que vu de Suisse romande, donc une zone francophone, on regarde la politique française avec passion, parce que la politique helvétique, vous pouvez l'imaginer, dans un pays aussi consensuel, elle a beaucoup moins d'incidents, elle a beaucoup moins de dimensions spectacle. Mais la grande différence pour moi, c'est effectivement que jusqu'à pendant très longtemps, la France était le théâtre de boulevard. C'est-à-dire que d'abord on s'insultait, mais on se respectait quand même, et ensuite il y avait toujours cette porte de derrière par laquelle vous pouviez sortir. Donc, au fond, les crises ne se terminaient jamais en drame absolument violent et terrible.
Parce qu'il y avait de l'humour, c'est ça ?
Parce qu'il y avait de l'humour, parce qu'il y avait du respect, et encore une fois, parce qu'on a le sentiment que tous les acteurs étaient conscients des conséquences de leurs actes. Donc, ça, c'est un élément nouveau. Au fond, les acteurs avaient le sentiment de jouer dans la même pièce. Maintenant, c'est différent. Vous avez une pièce de théâtre qui est jouée par des acteurs qui ne jouent plus le même scénario. Ça, c'est très problématique. Et effectivement, j'ai utilisé cette image de théâtre de l'absurde parce que le propre du théâtre de l'absurde, c'est que vous attendez toujours l'impossible. L'impossible ne l'arrive jamais. Et bien évidemment, entre-temps, vous pouvez vous retrouver dans des situations absolument ingérables et sans solution.
Vous avez l'impression qu'on n'a plus envie de rire en France ou que l'on se prend très au sérieux ?
Alors que les Français se prennent au sérieux, j'allais dire, vu de l'étranger, c'est un peu une litote, c'est un peu une habitude. Est-ce qu'on n'a plus envie de rire ? C'est un bon point. Je dois dire que regardez par exemple les protagonistes actuels, même les plus doués comme Jean-Luc Mélenchon, homme de culture, etc., on le voit quand même pas souvent rire. On le voit quand même pas aller dans l'humour. Ça, c'est très problématique. Oui, je pense que la dimension d'humour, même d'humour noir, elle a disparu. On est vraiment dans le pugilat verbal permanent, peut-être amplifié aussi par les chaînes d'information continue et tout le dispositif médiatique qui est particulier. Rappelons quand même que la France, contrairement à ses voisins, a beaucoup plus de chaînes d'information continue.
On a l'impression également que, au fond, peut-être que ce qui irrite chez Emmanuel Macron, c'est que c'est un président qui reste souriant. Ça faisait plusieurs fois d'ailleurs que les présidents de la République en France prenaient un visage grave. C'est ce qu'on leur demande d'ailleurs. On ne veut plus qu'ils prennent de vacances, on ne veut plus qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient constamment concentrés sur nos problèmes. Et le fait que Emmanuel Macron reste souriant, alors en ce moment il a un masque sur le visage, mais on voit bien quand même qu'il y a une forme de jubilation chez lui. Il joue pas le jeu du président grave en permanence.
D'ailleurs, c'est l'explication qu'a donné le jeune qui lui a donné sa gifle, je crois. Il a dit qu'il l'a vu arriver souriant, que ça l'a énervé, etc. C'est tout à fait vrai. Alors, je pense que c'est lié, encore une fois, à la posture d'Emmanuel Macron qui croit qu'il est capable de convaincre et de séduire. Il est persuadé d'être un séducteur né, ce qu'il est sans doute, il a quand même été élu. Et donc, il en rajoute sur ce terrain-là, ça me paraît très vrai. L'autre chose, je crois, chez Emmanuel Macron, qui pose un problème, et ça depuis le début de son quinquennat, c'est qu'il ne fait pas peur. Or, il y a en France cette dimension peut-être inconsciente que le président... Vous savez, on a tellement reproché à François Hollande d'être un président normal. Ça voulait dire quoi ? On lui reprochait d'être quelqu'un qui ne fait pas peur, qui n'incarne pas naturellement l'autorité. Il y a peut-être aussi cela chez Emmanuel Macron d'une manière différente. Vous n'impressionnez pas votre interlocuteur. Lui, il est convaincu. D'ailleurs, vous avez vu la longueur des interviews qu'il donne. Je pense à celle qu'il a donnée récemment au mensuel Zadig. C'est très, très long. Il est convaincu que l'explication permet tout. Or, en réalité, dans une société où tout est de plus en plus, il faut être de plus en plus court sur tout, les réseaux sociaux. Donc, il y a une contradiction, finalement, entre Macron et l'univers dans lequel il évolue.
Au fond, pour conclure, vos chroniques, puisque c'est à elles que je me réfère, Richard Verly, la gifle de Tain-l'Hermitage n'est pas le résultat d'un pays à feu et à sang, ni même d'un climat pré-révolutionnaire. Elle est fille de l'absurde et du nihilisme.
Oui, c'est ça. Je pense que la France vit un théâtre qui est devenu un théâtre de l'absurde, comme on l'a dit. Je pense que cette idée que le pays serait lui-même révolutionnaire, elle est fausse, parce que moi, je fais pas mal de reportages en France et je vois énormément d'endroits paisibles et d'endroits où on peut voir le meilleur de la France. La seule chose, c'est que le discours dominant est celui comme on l'a dit, de la violence et du chaos, pour une raison simple, c'est parce que peut-être le pays a besoin de se faire peur en permanence, mais je crois autre chose, c'est que les problèmes de démocratie dans ce pays, et notamment, alors là c'est le Suisse qui vous parle, le manque de démocratie directe, l'incapacité à donner son point de vue de manière régulière, fait au fond qu'on est un peu dans le syndrome de la cocotte minute, à chaque fois il faut soulever le couvercle pour exister.
Mais c'est justement le point de vue du Suisse qu'on avait envie d'entendre. Merci, merci Richard Verli. Je rappelle que vous êtes le correspondant à Paris du quotidien Le Temps. Votre chronique s'appelle Hexagone Express. On se retrouve juste après une pause avec Frédéric Ploquin. Il va nous raconter le plus beau coup de filet et la plus belle idée qu'ait jamais eu le FBI.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Frédéric Ploquin. Vous êtes
Bonjour.
Journaliste spécialisé dans la police et la grande criminalité, notamment le trafic de drogue. Votre dernier livre, Les narcos français brisent l'omerta, est paru il y a quelques mois chez Albin Michel. Or, un vaste coup de filet vient d'avoir lieu, opéré par le FBI, la police danoise et la police néerlandaise. 800 criminels ont été arrêtés en quelques jours, et cela grâce à une messagerie chiffrée qu'utilisaient les trafiquants en se croyant à l'abri des yeux et des oreilles indiscrètes. Mais cette messagerie avait ceci de particulier. Elle avait été développée par le FBI. Les millions de messages qui étaient échangés étaient lus en clair et en direct par la police. Une opération d'espionnage aussi génialement menée, j'ai l'impression que c'est sans précédent. D'habitude, ce sont les trafiquants qui innovent. Pour une fois, c'est la police.
Absolument, les trafiquants sont les rois de l'innovation. Ils ont toujours un train ou un avion d'avance. C'est le principe même de leur métier. Et les policiers courent derrière, c'est comme ça depuis des siècles finalement, cette espèce de course comme ça où chacun essaie d'avoir un moment d'avance sur l'autre. Et là, exceptionnellement, effectivement, et ils ont eu raison d'en profiter, hein, le FBI et les polices du monde entier, parce qu'en fait, quand les services répressifs ont un train d'avance sur les voyous, ça ne dure en général pas très longtemps. Donc pourquoi ? Parce que les voyous en face, ils vont s'adapter. À un moment donné, moi, j'ai été surpris là quand j'ai fait cette enquête là sur les trafiquants de stupéfiants, de voir à quel point ils se croyaient, nos trafiquants français notamment, à l'abri derrière leur téléphone crypté. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient maintenant c'est simple, hein, je suis dans mon salon, j'ai même plus besoin d'aller à Bogota, plus besoin d'aller à Dakar, plus besoin d'aller à Amsterdam. J'ai 3 téléphones cryptés sur ma petite table devant moi et je passe commande, je passe des ordres, etc. Donc ils se sont vraiment crus, et ça concerne le monde entier, les trafiquants de stupéfiants et les trafiquants d'armes du monde entier se croyaient à l'abri derrière ces messageries cryptées. Or là, effectivement, le FBI porte un coup sévère. Hein. C'est pas le premier coup.
Non,
ça fait 2-3 ans que les...
Il faut remonter un tout petit peu pour bien comprendre. Récemment, un autre outil censé garantir la protection absolue des communications avait été piraté par les polices hollandaises, belges et françaises. C'est SkyECC. En quelques semaines, les polices ont espionné 3 millions de messages, plusieurs millions de messages en tout cas, que les criminels croyaient cryptés. Et puis avant, pendant l'été 2020, il y avait eu l'application Encrocha, qui a permis d'ouvrir 1500 enquêtes en Grande-Bretagne, 70 en France. À chaque fois, à ce moment-là, on piratait.
Concernant Encrocha, ça commence en France, en fait. Ça commence en 2017 en France. Il y a une enquête stupéfiante qui est ouverte à Lille, qui est confiée aux gendarmes. Et les gendarmes butent toujours sur cette impossibilité, parce qu'aujourd'hui, les trafiquants de drogue ne communiquent plus, comme vous et moi, sur leur téléphone portable. Donc, butent sur l'impossibilité de pénétrer leur système de communication. Et là, on a des cyber gendarmes qui arrivent à mettre en place un espèce de petit moyen technologique qui leur permet d'aspirer en direct les données dans les téléphones cryptés par le fameux réseau Encrochat. Et donc pendant des mois, ils vont être, et ça c'est, je pense que c'est assez, pour les services de police, c'est assez jouissif, ils sont à la table, c'est comme s'ils étaient dans la salle à manger, dans le salon.
Ils écoutent
ou ils lisent en direct.
Voilà, ils lisent les messages et c'est du jamais vu. Pour un journaliste, ce serait le rêve, non, d'avoir toutes ces conversations.
Absolument. Mais il y a une époque, moi, je rappelle quand même que les voyous ne voient jamais venir ce genre de bond en avant technologique. Quand Quand ils ont découvert que leur téléphone fixe était écouté à la maison, bah, ils sont passés dans les cabines téléphoniques dans la rue. Après, les cabines téléphoniques ont été écoutées, bah, ils s'en sont rendus compte au bout d'un moment, bah, ils sont passés au téléphone portable quand c'est arrivé. Jusqu'au jour où la police, c'est toujours comme ça, la police a de nouveau fait un petit bond en avant, réussi à écouter les téléphones portables, coincé quelques gros malfrats, jusqu'au jour où ils se sont dit, bah, il faut qu'on le fasse autrement. Donc là, effectivement, cette affaire en crochade, c'était une grande première mondiale et qui a bénéficié pas seulement à la police française, parce que il n'y avait pas tant de téléphones en crochat en circulation en France, il y en avait une centaine, mais en revanche, il y en avait des milliers en Hollande, en Belgique, où sévit, comme on le sait, la grosse mafia, on va dire maroco-batave, qui traite la cocaïne à la tonne ces dernières années.
Alors là, on a franchi une nouvelle étape encore plus palpitante, puisque donc on a bien compris que les réseaux criminels ont besoin d'outils de communication ultra sécurisés. Ils n'utilisent pas des téléphones comme les autres. Il fut un temps, ils utilisaient des fantômes secure, mais le PDG de la société a été arrêté en 2018. Et c'est là que le FBI a eu cette idée géniale. Il s'est dit, on va leur fournir le prochain smartphone et la prochaine application, la prochaine plateforme qui va leur permettre de communiquer entre eux. Ils l'ont baptisé Anom et ils l'ont installé sur des téléphones spéciaux avec lesquels on ne peut pas téléphoner, ni envoyer de mails, ni prendre de photos. On s'envoie juste des messages écrits et vocaux censés être cryptés. Mais là, ils ne seraient pas cryptés puisque le FBI était derrière. Mais alors, comment ils ont fait tous ces policiers pour que les trafiquants se précipitent sur ces smartphones, parce qu'ils vont réussir à en écouler 11 000 en 3 ans. C'est extraordinaire, c'est une opération marketing Absolument. Formidable. Mais comment ils ont réussi à ça?
D'abord, les policiers américains ont l'habitude, ont toujours un temps d'avance en matière de loi par rapport aux polices européennes. Hein. Ce sont les grands spécialistes des coups d'achat, de l'undercover. Les policiers français ont longtemps bavé en regardant ce que pouvaient faire les Américains. Là, en l'occurrence, le FBI a profité de circonstances extrêmement favorables, c'est-à-dire qu'en France, on venait de neutraliser en crochade, en Angleterre, en Belgique, on venait de neutraliser une autre messagerie cryptée qui avait pris le relais, qui était Sky ICC, et du coup, ils arrivent sur le marché à un moment donné où il y a un vrai besoin déjà, donc parce que les trafiquants de stupéfiants ont compris que ces messageries-là étaient grillées, il leur faut un nouveau système. Et là, ils vont envoyer des espèces de, on va dire, on appelle ça aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux, des influenceurs, qui vont faire un peu la promo auprès des grands voyous de ce nouveau téléphone que le FBI était en train de mettre en place à partir de logiciels saisis justement dans une société qui était spécialisée là-dedans. Donc ils se sont emparés de cette technologie et ensuite, ils ont commencé à fabriquer des téléphones et ils vont réussir effectivement à en mettre en circulation 12 000, ce qui est énorme, en jouant sur, en gros, quelques voyous qui leur ont fait de la pub et qui aujourd'hui d'ailleurs doivent avoir entre guillemets chaud aux fesses parce que ceux qui les ont écoutés se sont équipés de ces appareils cryptés doivent s'en mordre les doigts. Puisqu'on apprend aujourd'hui que 17 millions de messages, c'est pas rien, ont été captés, détournés, qui vont nourrir probablement des enquêtes judiciaires pendant plusieurs années.
Alors quand ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, bah, ils ont mis tout le monde à l'ombre. Mais alors, je trouve ça quand même un petit peu décevant. Il y a eu seulement 800 arrestations, mais ils n'ont surtout saisi que 8 tonnes de cocaïne. 8 tonnes, c'est pas beaucoup. La police belge a saisi 17 tonnes de cocaïne cette année en espionnant avec l'application en crochat à l'époque. Bon, il y a eu 22 tonnes de cannabis, 250 armes à feu, 55 véhicules et 48 millions de dollars en devises et en crypto-monnaie. Mais les 8 tonnes de cocaïne, c'est pas décevant?
On se focalise à tort souvent sur les quantités saisies et on a effectivement des services répressifs qui font une espèce de concours comme ça en fin d'année. Moi j'en ai saisi tant. Mais ce qui fait le plus de mal aux trafiquants de stupéfiants, c'est pas qu'on leur saisisse du produit. Parce que le produit, au final, il vaut rien. Il vaut pas grand chose. Je veux dire, une tonne de cocaïne à fabriquer, si on regarde ce qui se passe dans les montagnes en Colombie, au niveau des engrais, etc., ça ne coûte strictement rien. Pas plus qu'une tonne de cannabis. Donc en fait, ce qui leur fait le plus mal, c'est pas ça, c'est qu'on leur saisisse leurs avoirs financiers d'une part, et que là, d'autre part, on dévoile leur modus operandi, leur mode opératoire, et qu'on mette à jour les bandes. Et en fait, ce qui compte, c'est le nombre d'arrestations. Et c'est vrai que là, avec l'opération américaine. On arrive aujourd'hui déjà à environ 800 arrestations dans le monde entier, à très haut niveau, dans toutes les mafias, que ce soit les mafias turques, asiatiques, latino-américaines ou européennes. Donc c'est ça qui fait le plus mal. Et je rappelle quand même que à un moment donné, il a fallu. C'est aussi toute la difficulté. Quand vous êtes à l'écoute comme ça des voyous et que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont être exécutés, parce qu'en fait ils parlent, ils sont tellement à l'aise et tellement tranquilles et tellement sûrs d'eux sur ces messageries cryptées qu'ils orchestrent et qu'ils planifient les règlements de compte sur ces messages cryptés. Et là, vous avez un problème quand vous êtes le FBI ou n'importe quel office central qui lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Est-ce que vous allez laisser tuer des gens sous prétexte que vous avez envie de démasquer d'autres réseaux?
En général, si jamais ils empêchent l'assassinat, évidemment, les voyous risquent de se rendre compte qu'ils sont écoutés.
Oui.
C'était le même problème avec la machine Enigma pendant la guerre. Est-ce que les Anglais qui l'avaient
décrypté... C'est exactement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé là. Notamment, il y avait un magistrat qui devait être assassiné, exécuté en Serbie. Il a fallu déjouer cette affaire. Il y a eu d'autres opérations comme ça qui ont été déjouées. Donc, on a sauvé des vies grâce à cette opération littéralement d'espionnage qui déstabilise complètement le crime organisé dans le monde aujourd'hui.
Merci Frédéric Ploquin. Je renvoie à votre livre paru avant cette affaire, hein, Les narcos français brisent l'omerta. C'était chez Albin Michel. On fait une pause et juste après, on a rendez-vous avec une historienne. C'est Annie Cohen-Solal. Elle va nous parler d'un étranger nommé Picasso.
Europe 1, 9h-10h. C'est arrivé cette semaine.
Bonjour Annie Cohen-Solal, vous êtes historienne. Vous publiez Un étranger nommé Picasso chez Fayard, un gros livre de plus de 700 pages, d'autant plus passionnant qu'il traite la vie du peintre sous un angle inédit, son statut d'étranger en France. Picasso a été fiché toute son existence par la police française quand même.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est quelque chose que on savait. Enfin, il y avait même eu des informations de la part de Pierre Dec sur ce fichage de Picasso, mais personne n'avait fait l'enquête. Voilà.
Au fond, il n'avait jamais commis aucun crime, mais sauf celui de ne pas être français.
C'est exactement ça. Mais en fait, il y avait trois éléments qui le stigmatisaient. Premièrement, il était étranger. Deuxièmement, il était étiqueté à gauche. Et troisièmement, c'était un artiste d'avant-garde. Et à ces trois titres-là, il était malvenu en France. Il a été malvenu en France. Et ce que je révèle dans mon livre, c'est que ces décalages, ces anomalies, ces scandales ont duré pendant 40 ans. C'est-à-dire que les 40 premières années de Picasso en France, de 1904 à 1944, cet homme-là est un homme fragile. C'est un homme précaire. C'est un homme qui a peur d'être expulsé. Et c'est seulement au moment de la libération, quand il devient communiste, quand il adhère au Parti communiste, qu'il trouve un bouclier et qu'il trouve une identité dans le pays qu'est la France. Voilà.
Et c'est peut-être ça qu'il l'a fait d'ailleurs.
L'adhésion au Parti communiste, vous voulez dire? Bien sûr. Moi, je crois que c'est exactement ça.
Revenons un tout petit peu en arrière.
Oui.
En 1901, 15 jours avant sa première exposition à Paris, Picasso est signalé comme anarchiste à la police. Hein. Il est très suspect. C'est l'équivalent du fichier S de l'époque, hein, puisque les anarchistes étaient les islamistes du tout début du XXe siècle.
Oui.
Alors,
j'étais
quand même un peu plus sélectif. Leurs attentats visaient les chefs d'État ou carrément l'Assemblée nationale, mais on les redoutait, on les surveillait. Et il va se trimballer ça pendant un certain nombre d'années, Picasso. Hein.
Absolument, pendant 40 ans. Mais c'est très simple. Il naît en Espagne, il a quatre identités espagnoles et il arrive comme un bolide à Paris en 1900 parce que c'est le seul endroit où il faut être quand on est artiste. C'est le seul lieu où on peut travailler parce qu'on va être repéré, etc. Mais Picasso ne connaît pas la langue française et ne connaît pas les codes de la société française. Alors que fait-il? Il arrive escorté par ses copains catalans qui depuis 20 ans avaient créé une espèce de société dans la banlieue nord qui était Montmartre. Bon. Or, la police française qui avait construit sa police des étrangers de manière extrêmement sophistiquée, ça va être la plus belle police des étrangers du monde, avait à l'œil les anarchistes de Montmartre. Donc Picasso, lui, il habite chez son marchand catalan qui est catégorisé anarchiste. Donc Il est repéré par les indicateurs de police. Lui, il travaille, il fait ses trucs, il fait 64 tableaux en 3 semaines. Enfin, c'est colossal ce qu'il fait. Mais quand le critique Gustave Coquiot, qui voit l'exposition, fait un excellent article en disant « Ce jeune catalan brillant qui nous parle de notre présent va exposer », eh bien, le commissaire Rouquier voit un article dans la presse et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tous les messages des indicateurs de police qui étaient là depuis 3 semaines et qui disaient que Picasso parlait mal le français, qu'il rentrait tard le soir et que sur ses tableaux, il y avait des femmes qui faisaient la mendicité. Donc, il y a quelque chose de totalement pervers qui se passe, c'est que à partir d'une critique d'art artistique extrêmement positive, le commissaire de police fait un rapport extrêmement négatif et il termine en disant puisqu'il habite chez un marchand anarchiste, il doit être considéré comme anarchiste. Mais c'est infect, c'est un piège infect. Et donc Picasso tombe dans ce piège parce qu'il est étranger, vous voyez ?
Mais quand vous avez lu toutes les archives de la préfecture de police, oui, et on voit bien que tout ce qui est dit de Picasso, et alors à un moment vous citez, il y a bien qu'âgé de 30 ans en 1914, il n'a rendu aucun service à notre pays pendant la guerre. Il s'est fait une situation en tant que peintre soi-disant moderne. Ce qui lui a permis de gagner des millions, placé, paraît-il, à l'étranger et de se rendre propriétaire d'un château. Voilà ce qu'on écrit sur Picasso. Ou alors, il a conservé ses idées extrémistes tout en évoluant vers le communisme, etc., etc. Voilà, c'est ce qu'on écrivait dans les archives de la police sur Picasso, à une époque où il était déjà extrêmement célèbre dans le milieu de l'art. Ils n'en tiennent absolument pas compte. Pour eux, c'est un malfaiteur, un imposteur qui vole de l'argent.
C'est ça le stigmate, Frédéric, c'est ça un stigmate. C'est quelque chose qui vous tombe dessus comme une marque dans un camp de concentration. En fait, c'est des allégations à l'emporte-pièce qui vous marquent à vie. Mais le mec de la police, il connaît pas l'art, il connaissait rien. Il y a une dichotomie complète entre le monde de la police et le monde de l'art, vous voyez. Et ce qu'il y a aussi de terrible, c'est le pouvoir exorbitant de ce commissaire de police qui n'est qu'un agent de guichet, vous voyez, et qui ne fait même pas viser son rapport par le préfet de police. C'est un petit mec, un petit bonhomme qui va décider que Picasso n'a pas le droit de devenir français alors qu'il est terrorisé, on est en 1940. C'est la seule fois où Picasso fait une demande de naturalisation. En 1940, il est très célèbre parce qu'il a fait Guernica, que Guernica, peut-être, c'est son chef-d'œuvre. C'est l'œuvre qui se bat contre la montée des fascismes en Europe. L'œuvre se tourne dans tous les musées d'Europe et tous les musées d'Amérique. Donc, il est très célèbre à ce moment-là. Et il a peur parce que, un, Franco a pris le pouvoir en Espagne, que deux, dans les musées allemands, il y a une exposition qui s'appelle Entartete Kunst, les artistes dégénérés. Et lui, c'est le premier artiste dégénéré. Et troisièmement, parce que les Allemands sont en train d'arriver sur la France. Donc Picasso a peur pour sa vie, comme Garcia Lorca avait peur pour sa vie, et il a été victime expiatoire, Garcia Lorca. Donc Picasso est angoissé, c'est un homme angoissé. Donc il demande à devenir français, mais ce rapport de police va le lui interdire à cause de ce premier rapport de 1901 qu'il avait marqué comme anarchiste.
Et Nicole Solal, on fait une pause, on se retrouve juste après, il y a encore beaucoup de choses à nous dire sur Picasso.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes de retour avec Annie Cohen-Solal qui publie « Un étranger nommé Picasso » chez Fayard. En décembre 1914, près de 700 peintures et dessins de sa période cubiste sont retrouvés séquestrés par le gouvernement français. Ça va durer 10 ans. Oui. Mais là, ce n'est pas tant lui qui est visé que son marchand, Cadwalader, ces deux marchands successifs qui sont allemands. Et pendant 10 ans, toutes ces œuvres vont être mises sous séquestre puis vendues à l'encan par l'État français. C'est quand même absolument dingue. C'est d'autant plus dingue quand on sait que l'autre marchand de Picasso n'y est pas pour rien. Il y avait une sacrée concurrence entre les marchés de Picasso. Les marchands de Picasso, il y en a un qui dénonce carrément
Léonce Rosenberg.
Voilà, il va dénoncer Il va dénoncer qu'il se retrouve. Ça lui permet d'éliminer un concurrent, au fond.
Le Picasso cubiste, c'est le Picasso qui est conscient que ce sont ses années héroïques. Quand il crée le cubisme, il crée le cubisme avec Braque, qui a été formé comme artisan. Et donc, tous les deux, ils vont faire des trucs très, très originaux. Et Picasso, là, surfe sur une vague extraordinaire pendant 7 ans. Il fait les choses les plus importantes, les plus belles, les plus originales de sa vie. Je crois qu'il y a des gens qui considèrent que c'est la seule période de Picasso, la période cubiste. Notamment Léonard Loder au Metropolitan Museum, le grand collectionneur. Il dit que c'est la seule période de Picasso. Et cette période-là, c'est celle-là qui sera séquestrée. Et Picasso la vivra comme une amputation. Il n'a pas fait la Première Guerre mondiale, mais il est amputé de son œuvre. Et ça, c'est terrible. Donc, après ça, il a peur, quoi. Donc, pendant l'entre-deux-guerres, il va changer, si vous voulez, d'esthétique. Et jusqu'à présent, les gens disaient « Ah, il est passé du cubisme au classicisme, du classicisme au surréalisme. » Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il a cherché à se protéger d'une autre attaque nationaliste qu'il aurait amputé à nouveau, vous voyez. C'est vraiment... Je suis entrée dans un espace extrêmement ténu, extrêmement pudique, extrêmement intime, qui est Picasso entre lui et lui, vous voyez. Quand je lis des lettres, vous voyez, je lis des lettres qui lui sont adressées, les lettres de sa mère, les lettres de ses amis, etc. Quelquefois, j'ai l'impression d'entrer par effraction, parce que Picasso n'en a jamais parlé. C'est pas un homme qui se plaignait, c'était un hyperactif, c'était un bolide, c'était un mec qui faisait de son art le centre de sa vie, qui a travaillé tous les jours de sa vie. Mais quelque part, découvrir ces fragilités-là, ça donne encore plus de poids à ce mythe qu'est Picasso et que nous connaissons, vous voyez. Et donc, quelque part, c'est un message pour les élections présidentielles, par exemple, pour les gens qui se sentent pas bien en France, pour leur dire il faut se battre, il faut essayer de trouver un moyen. Il y a une place pour vous, vous voyez.
Il y a le résultat de tout ça, Annie Cohen-Solal, c'est qu'il n'y a aucun tableau de Picasso dans les collections publiques en France jusqu'en 1947. L'État, quand même, décide de réparer ses erreurs et d'acheter alors Matisse, Bonnard, Braque, Rouault et Picasso, qu'il n'avait jamais acheté. Et Picasso va choisir, lui, de faire don des tableaux et de ne pas. L'État n'aura pas besoin de les acheter. Mais au fond, c'est seulement en 1966, avec la gigantesque exposition Hommage à Picasso, 800 œuvres au Grand Palais, au Petit Palais et à la Bibliothèque nationale. C'est seulement à ce moment-là que l'État français reconnaît enfin le génie de Picasso. C'est une sorte de réhabilitation pour cet éternel suspect, au fond.
Oui, c'est ça. Quand il fait don de ses œuvres en 1947, le directeur du musée de France prononce une phrase extraordinaire. Il s'appelle Georges Salles et il dit « Aujourd'hui, avec le don de Picasso, cesse enfin en France le divorce entre l'État et le génie ».
C'est beau.
Et puis après, en 1966, avec cet hommage à Picasso, c'est André Malraux qui est à la manœuvre et il va faire encore quelque chose d'encore plus important. Ça sera le 31 décembre 1968, il fera voter la loi sur les dations. C'est-à-dire qu'il permettra que la famille paye la succession de Picasso par des œuvres. Et donc,
ce qu'elle fera, ce qui permettra d'ouvrir le musée Picasso.
Voilà. Mais c'était vraiment moins une minute, quoi. À ce moment-là, c'est là que la France va récupérer donc, l'immense trésor de Picasso, l'immense trésor de ce génie qu'est Picasso. Donc il n'a fait que donner à notre pays, mais il ne s'est jamais plaint de ce qui lui était arrivé avant. C'est ça que j'ai révélé.
Un étranger nommé Picasso, ça vient de paraître chez Fayard. C'est tout à fait passionnant et c'est signé Annie Cohen-Solal. Merci Annie d'avoir été sur Europe 1.
Merci Frédéric, merci beaucoup, beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. Rendez-vous demain matin à 9h. À suivre Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien ?
On reviendra bien sûr sur les conséquences politiques de la gifle infligée à Emmanuel Macron. Une gifle à la démocratie pour 4 mois ferme de prison. Les régionales avec les derniers sondages, mais aussi cette expression de Gérald Darmanin sur la marque satanique du Rassemblement National et ses conséquences. Et puis le changement de stratégie de la France au Sahel. Voilà le programme.
Bonne émission, Sébastien.
Merci.